I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Aujourd'hui, je suis un peu triste, un peu nostalgique aussi. Pas parce que cette émission est l'avant-dernière de la saison, déjà. La sixième saison qui va se refermer sans Martin Mosnier. Alors rassurez-vous, il va bien, il a juste mieux à faire en ce moment que de passer ses journées ici avec moi ou avec Cyril Morin, mon acolyte du jour. Mais je suis un peu nostalgique aussi du temps qui passe. À mon âge, vous direz Martin, c'est normal.
C'est vrai.
Mais je suis quand même heureux. Heureux pourquoi ? Parce que cette émission n'est pas une émission comme les autres. C'est même un numéro spécial, j'ai envie de dire, pour deux raisons. La première, c'est qu'on accueille des stagiaires. On a Chloé, Nassim et Joshua qui sont là et qui pourront intervenir s'ils ont envie de parler. C'est des collégiens, des lycéens.
Ils m'ont déjà dit qu'ils avaient envie de te couper plusieurs fois la parole. Ah tu dis souvent des bêtises. Souvent.
C'est possible, ça je veux bien croire. Et ça, c'est une première. Ensuite, cette émission a été tournée, il faut le savoir, aux quatre coins de l'Europe.
C'est vrai.
Marseille, Lille, Lyon, Munich, Bucarest, Moscou, Kazan, Yekaterinbourg, Nijni Novgorod, Saint-Pétersbourg et même Budapest l'an dernier pendant 10 jours. Budapest, la Hongrie, il faisait une chaleur à crever. Eh bien, jamais cette émission a été présentée par un journaliste en short. On est toujours tiré à quatre épingles. Lui, Cyril, là, qui est à côté de moi, il a osé le short. On ne respecte plus rien. Et vous savez quoi, Cyril, comme Adrien, notre réalisateur, il a poussé le vice tout à l'heure à mettre une doudoune sans manche dans la rédaction. Une doudoune sans manche alors qu'il fait 40 degrés. Donc là, Cyril, je te laisse ta parole.
Alors,
je
dis ce, ce qui est terrible dans cette rédaction, c'est qu'on ne peut plus garder de secret entre nous. On demande l'autorisation de venir en short parce que Maxime, comme tu le sais, et comme vous le savez sans doute chez vous, il fait très chaud en ce moment. Hydratez-vous, n'oubliez pas. Donc le short, voilà, c'est autorisé normalement à cette période-là. Et simplement, il y a beaucoup de clim à la rédaction d'Eurosport, donc la petite doudoune pour éviter d'attraper froid.
Ouais, alors il faut dire tout aussi, simplement. La doudoune sans manche, ils n'avaient même pas enlevé l'étiquette.
Oui, bon, ça c'est une question de style. Voilà,
voilà c'est une question de style, mais je ne savais pas que vous aviez le même style avec Adrien, je ne sais pas pour qui c'est inquiétant.
Bah, pour les deux, tout simplement. De quoi parlons-nous, Maxime ? Autre que mon style vestimentaire aujourd'hui, il y a quand même de l'actu football.
Alors oui, alors j'ai envie de vous dire pour une fois, ne regardez pas la vidéo pour voir le short de Cyril, parce qu'il est coupé, vous savez, c'est les hommes troncs, comme dans les journaux de télé, on le verra pas.
Donc, tout était calculé.
Tout était calculé, évidemment. Et d'ailleurs, il a demandé avant, est-ce qu'on verra mon short ? On lui a dit non, mais ça m'arrangeait bien qu'il le mette, parce que ça me donnait une idée de quoi raconter. Donc, on va parler du PSG et de Christophe Galtier, qui, a priori...
De plus en plus proche, en tout cas. On sait qu'entre Zinedine Zidane et Christophe Galtier, le cœur des décideurs parisiens a balancé, mais on s'oriente d'heure en heure d'une signature de Christophe Galtier comme entraîneur du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est le bon choix ? Tout simplement, on reviendra sur la carrière de Christophe Galtier et on donnera nos arguments, Maxime, avant de passer au deuxième sujet.
Alors le deuxième sujet, on ira en Angleterre et en Allemagne. On parlera de Sadio Mané. Sadio Mané qui, a priori, va quitter Liverpool pour rejoindre le Bayern de Munich. On va essayer de décrypter un peu ce transfert-là et de se poser la question du côté de Liverpool. Est-ce que Liverpool a raison, finalement, de sacrifier l'un des trois hommes qui furent à l'origine de son succès ces dernières années.
Et on terminera cette émission en parlant d'un club historique très mal en point. C'est évidemment les Girondins de Bordeaux. La DNCG a prononcé un avis pour une rétrogradation en N1. On aura un invité, Nicolas Pietrelli, qui gère le site webgirondins.com pour nous parler de la situation des Girondins et notamment de son président Gérard Lopez qui fait couler beaucoup d'encre.
Ouais, qui fait couler tout court. Même.
Ouais, qui fait tous les... Exactement.
Cette émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, les mauvaises aussi. Donc, vous nous trouvez à peu près partout. N'hésitez pas. Les meilleurs moments de l'émission, évidemment, c'est sur le site eurosport.fr. Puis, on va démarrer parce qu'il fait très, 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 très chaud. Et moi, je ne suis pas en short, donc j'ai un peu chaud.
Alors, Maxime, on parlait de température. Ça a augmenté de quelques degrés ces dernières heures du côté du Paris Saint-Germain pour une arrivée de Christophe Galtier. On va essayer d'être très concis déjà en rappelant ce qui se passe. Ça fait plusieurs semaines que le board parisien hésite entre deux noms. Christophe Galtier, poussé par Luis Campos, le nouveau conseiller football au Paris Saint-Germain, et évidemment Zinedine Zidane, qui est lui le choix du Qatar. Ça fait plusieurs semaines que le Qatar se heurte un petit peu aux demandes de Zinedine Zidane et on a l'impression que le dossier n'avance pas beaucoup. Ces dernières heures, les contacts ont été noués entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. pour libérer Christophe Galtier de son contrat avec les Aiglons et donc pour que Christophe Galtier devienne le prochain coach du Paris Saint-Germain pour ainsi conforter Luis Campos. Maxime, première question toute simple. Est-ce que Christophe Galtier, pour le Paris Saint-Germain, c'est un bon choix ?
Alors, ça, je te le dirai dans un an, dans deux ans.
Ouais.
Mais sur le papier, ça ressemble à quelque chose, en tout cas, de super excitant et de très intéressant. Pourquoi ? Parce que tu parles de Galtier, tu parles de Zidane. Alors, sur le papier, on va dire, oui, bah, Zidane, trois Ligues des Champions, ça fait pas le tout à côté. Okay. Sauf que Zidane, comme on le répète ici depuis des mois et même un peu plus que ça, Zinedine Zidane est obsédé par une chose, l'équipe de France. La Coupe du Monde, c'est au mois de novembre jusqu'en décembre. Et la Coupe du Monde, a priori, après, possiblement, il y a une place qui se libère. Et Zinedine Zidane y est très sensible.
Ouais.
Moi, j'ai souvent dit ici que la meilleure chose qui pourrait arriver au PSG, c'est d'avoir un entraîneur de la poigne de Didier Deschamps. Voilà. Un pragmatique. Et bien, pour moi, tout simplement, Christophe Galtier, c'est un mini Didier Deschamps, tout simplement. Martin Mosny était allé voir, c'est au printemps, juste avant la finale de la Coupe de France. Il a parlé de ça avec lui et il y avait notamment ce côté de parler de Deschamps et lui, il se revendique de ça. Pour lui, être pragmatique, ce n'est pas un problème. Je pense que le PSG aujourd'hui a besoin de pragmatisme, tout simplement. L'histoire de le mettre avec Campos, je pense que c'est aussi la meilleure chose qui pouvait lui arriver.
Exactement.
Parce que je te dirais que Galtier, qui serait arrivé l'année dernière au PSG, avec l'environnement tel qu'on le connaît avec Leonardo, je ne suis pas certain pour le coup. Parce que Leonardo, on sait qu'il est très politique. On a vu, il a donné une interview dans l'équipe aujourd'hui qui est... Il parle, mais il ne dit absolument rien.
Une belle langue de bois.
Il défend son bilan qui se résume à quoi ? Avoir fait venir Messi, alors que Messi, de toute façon, il n'avait aucune autre porte de sortie que le Paris Saint-Germain. Donc je pense que de l'amener avec Campos, c'est très bien. On l'avait vu avec Campos. Ça lui avait posé problème quand il avait quitté Lille, parce qu'il avait dit « Moi, je vais devoir m'occuper du recrutement, je n'ai pas envie de faire ça. » Ils ont des chasses gardées bien précises les uns et l'autre, sans jalousie, parce que il n'y en a pas un qui lorgne le poste de l'autre.
Sachant qu'ils ont déjà travaillé ensemble,
exactement.
Donc ils connaissent aussi le périmètre de chacun. Donc moi, je suis d'accord avec toi sur le cas Campos. Je t'ai coupé, excuse-moi Maxime.
Non, mais tu peux y aller, c'est tout.
Moi, je suis d'accord avec toi sur une chose. Ça fait des années que le Paris Saint-Germain mise sur des tacticiens. On a eu Unai Emery, on a eu Thomas Tuchel, on a eu Mauricio Pochettino. Ces entraîneurs-là étaient censés apporter une patte au Paris Saint-Germain. Ça n'a jamais pris. Pourquoi ? Parce que le Paris Saint-Germain n'est pas un club qu'on peut où c'est beaucoup plus difficile d'imposer sa vision qu'à Tottenham, qu'à Villarreal, etc. Donc, ça fait des années qu'on dit et qu'on le répète qu'il faut plus un meneur d'hommes qui colle à ces besoins-là. Zinedine Zidane est un type de meneur d'hommes. Christophe Galtier est un autre genre, mais qui, à mes yeux, a toutes ses chances de réussir. Alors, il va y avoir sûrement des critiques sur la tactique proposée par Christophe Galtier. Moi, il y a quelque chose, je pense, qui va très bien marcher, c'est le relationnel. Christophe Galtier, partout où il est passé, tous ses joueurs n'ont eu que des mots laudateurs à son égard. C'est vraiment un entraîneur qui sait se mettre un groupe dans la poche. Et quand on voit l'équipe de Lille, championne de France la saison passée, c'est un groupe qui pousse tout le temps dans le même sens. Et c'est aussi ce dont Paris avait besoin peut-être ces dernières années. On a eu l'impression souvent d'avoir beaucoup une constellation d'étoiles, mais de jamais vraiment voir un groupe uni. Je pense que Christophe Galtier peut faire ce trait d'union-là.
Et la question, est-il taillé pour le poste ? Je viens de vous dire que Pochettino, il était censé être taillé pour le poste. Or, ça n'a pas marché. Donc à un moment, il faut essayer autre chose. Et ce que Paris a essayé de faire avec Emery, avec Tuchel, pourquoi pas le faire avec un entraîneur français, tout simplement. Ce sont des personnes qui montent. Guardiola, c'est pas disponible, ça viendra pas. Mourinho, c'est sans doute trop tard pour espérer dans un grand club comme ça.
Ouais.
Donc il faut tenter cette chance-là. Moi, j'ai longtemps pensé, et même ce n'est pas pensé, c'était le cas, il n'avait pas la carte Galtier. Finalement, il a réussi à l'avoir, alors qu'il faut rappeler que Galtier, c'est un joueur de foot assez moyen, c'est un défenseur rugueux, il n'a pas la carrière d'un Laurent Blanc en défense, évidemment, et souvenez-vous de ce qu'on disait de Laurent Blanc quand il est arrivé au PSG, que des types comme Zlatan ne le respecteraient pas, alors que le gars avait une carrière XXL. Or, tout le monde l'a respecté, ça s'est très bien passé, jusqu'à preuve du contraire, c'était le meilleur. Il était français, c'était pas non plus un problème de communication avec les joueurs, donc je pense, oui, qu'il faut tenter Galtier, et je pense, comme tu l'as dit, qu'il va avoir l'obsession du collectif, et je pense qu'il n'aura pas de problème à mettre quelqu'un comme Neymar sur le banc. Pourquoi ? Parce que justement, au-dessus, il n'y a plus Leonardo, il y a Luis Campos. Et tout sera pensé,
plus clair,
sous-pesé
plus
et plus clair et surtout cohérent. Et c'est ce qui manquait au PSG jusqu'ici, de la cohérence.
Je ne sais pas si tu l'as vu, Maxime, il y a eu pas mal de séquences sur les réseaux sociaux qui sont sorties ces dernières heures sur justement cette relation avec les joueurs. Évidemment, la carte de visite de Christophe Galtier, il est passé par Saint-Etienne, Lille, Nice. Donc, il n'a jamais coaché des joueurs de l'envergure de Lionel Messi. Et d'ailleurs, si on nous avait dit il y a 6 ans que Christophe Galtier serait l'entraîneur de Lionel Messi, je pense qu'on aurait
Qu'est-ce qui aurait été le plus probable ? Qu'il aille à Barcelone ?
C'est une autre question. Mais sur le CV des joueurs, on a vu des séquences où, après les matchs, Marquinhos Verratti, Mbappé aller vers Christophe Galtier pour le féliciter de son travail. Donc je pense que pour ceux qui connaissent l'écosystème français au Paris Saint-Germain, Galtier, c'est pas n'importe qui. Entre les joueurs, ça parle. Et comme je le disais tout à l'heure, les joueurs respectent Christophe Galtier, donc je vois mal pourquoi ça devrait mal se passer avec les superstars. Et en plus, je pense que Christophe Galtier est un homme très intelligent, qui sait se fondre dans les contextes dans lesquels il arrive. Le fait qu'il travaille en binôme avec Campos va sans doute l'aider, mais je le vois très très mal brusquer son groupe, brusquer ses stars. Et au contraire, encore une fois, ça va pousser dans le même sens. Donc moi, je suis excité et presque curieux de voir cet alliage-là. Et je suis d'accord avec toi sur le côté franco-français. Je pense que Mauricio Pochettino a aussi un petit peu souffert de ça. On a eu du mal à comprendre sa vision parce que quand on parle en espagnol, voilà, il y a toujours ce frein-là.
Surtout, il n'a pas fait l'effort sur la com'.
Exactement. Là, Galtier, c'est un homme qui parle France, c'est un homme qui parle clair. Et au moins, on aurait une direction précise, ce qui a manqué parfois au Paris Saint-Germain ces dernières années.
Et s'il se présentait aux législatives, un homme qui parle franc, qui parle clair, là, je peux dire, tu as le slogan,
ouais,
tu peux être directeur de campagne. Hein,
c'est vrai, c'est vrai. Maxime, on va passer au cas Sadio Mané, l'homme qui fait beaucoup parler ces dernières heures sur le mercato parce que le Bayern Munich est en passe de formuler une nouvelle offre de près de 50 millions d'euros à Liverpool pour son Sénégalais. Une offre qui devrait un peu plus contenter les Reds qui, de toute façon, ont déjà son remplaçant à la personne de Luis Diaz et qui ont également recruté cette semaine Darwin Núñez comme attaquant de pointe. On va se poser une question toute simple. Est-ce que Liverpool fait une erreur en libérant Mané?
Alors j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, que Darwin, c'est l'évolution. C'est la logique de la suite. Et en fait, il faut prendre. En fait, si tu veux bien analyser ce transfert, il faut faire the big picture, regarder autour. C'est-à-dire que Liverpool, c'est un club prévoyant. C'est un club qui a bâti une grande partie de son succès sur un trio offensif Firmino, Mané, Salah d'exception, qui à un moment se dit, il est peut-être temps d'injecter un peu de sang neuf. Voilà. Il y a plein de choses qui doivent se passer en interne, qu'il voit. On l'a vu cette année, Firmino a un petit peu disparu. Là, ils se disent que Mané arrive quasiment en fin de contrat, qu'il faut peut-être aller chercher quelqu'un qui proposera un avenir beaucoup plus long à Liverpool. Et c'est vrai que quand on s'appelle Mané, notamment qu'il y a le Bayern qui vient, que potentiellement le Bayern est prêt à mettre 50 millions, il n'y a pas tellement de raisons que ça ne se fasse pas, hormis évidemment l'attachement du joueur au club de Liverpool, qui est un club quand même à part. Voilà.
Mais c'est malgré tout lui qui a demandé son départ aux Reds cette saison.
Mais je pense qu'encore une fois, c'est une intelligence collective en fait qu'il y a dedans. Je pense qu'il n'y a pas de sacrifice. C'est sûr qu'il y a toujours un pari quand vous allez chercher un joueur. Darwin, ça va être un pari évidemment parce que ça va être nouveau, il va falloir se réinventer. Mais c'est comme ça qu'on avance dans un club de foot. C'est pas en gardant tous ces joueurs indéfiniment, je ne citerai pas de nom, mais l'empilage de joueurs, ça ne sert à rien à un moment. Et si un joueur veut partir et qu'en plus, il y a une solution de rechange qui fonctionne et pas mal d'argent à chercher, puisque Liverpool n'a pas cédé et autour de 50 millions, je pense que ça va devenir.
Pour un joueur qui est en fin de contrat en 2023.
Ça va devenir très honnête. Et pensez aussi, c'est intéressant aussi de se mettre dans la position du joueur. Je pense que Mané, Bayern Munich, il peut difficilement faire mieux post-Liverpool et dans la philosophie du joueur et dans ce qu'il attend d'un club et ce qu'un club attend d'un joueur. Donc je pense qu'on est peut-être sur un transfert, sur une évolution gagnante-gagnante des deux côtés pour le coup.
Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur le gagnant-gagnant parce que le Mané de Liverpool ces 6 derniers mois, c'est un joueur qui est ultra important au collectif des Reds. Alors, évidemment, Darwin Núñez, Luis Diaz vont le devenir, c'est évident. Mais dans la façon dont les Reds ont construit leur saison, il a joué un rôle ultra important. Et moi, ce qui m'embête un petit peu dans le cas Sadio Mané, c'est que malgré tout, dans le traitement qu'il a eu à Liverpool, il a toujours été un tout petit peu en dessous des autres stars du vestiaire. Quand on parle de Liverpool, on parle de Mo Salah. Sadio Mané, faut savoir que c'est le 12e salaire actuellement à Liverpool. Il est très, 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 très loin de Virgil van Dijk, Thiago Alcantara et Mo Salah, qui sont les meilleurs salaires à Liverpool. Donc déjà, je pense que ça joue dans la perception d'un joueur et du respect qu'a le club, ce club-là envers lui. Et surtout, en fait, je pense que du côté de Liverpool, on a presque été surpris que Mané prenne cette envergure-là. Quand il arrive en 2016, c'est un fantastique joueur de première ligue, mais c'est un joueur de coup d'éclat. Et en fait, c'est devenu un des joueurs les plus réguliers. Je vois très peu d'ailiers sur les 5 saisons passées qui ont été aussi réguliers, aussi consistants et aussi impactants que lui. Il est quasiment à 50 matchs par saison quand même. Donc quand on sait le style de jeu de Jürgen Klopp, ça dit beaucoup de choses. Donc effectivement, c'est gagnant-gagnant et pour le joueur et pour le Bayern. Je ne suis pas sûr que Liverpool sorte grandi sportivement de l'affaire, même si dans la planification, tout s'explique.
Voilà, c'est vraiment le côté planification. Sportif, de toute façon, il y a toujours un point d'interrogation à partir du moment où vous démantelez un trio comme ça. Encore une fois, ça a commencé l'année dernière avec Firmino qui a pris beaucoup de recul. Ça va a priori continuer avec Mané et maintenant garder ça là. C'est aussi des choix d'un club. Et il faut aussi réfléchir à une chose qui rentre en ligne de compte. C'est pas Manchester City. C'est pas le Paris Saint-Germain. C'est pas un club où on signe des chèques en blanc. Donc il y a aussi une logique salariale, même si d'être le 12e salaire contre Balmané. Voilà. Mais après, ça correspond aussi, tu l'as dit, à des périodes au moment où, où on signe, voilà, des prolongations. Exactement. C'est comme ça. Dans tous les sports, ça arrive. Il y a des joueurs qui sont même trop payés à un moment, parce qu'on se dit, prenez le cas Neymar. Aujourd'hui, payer Neymar à ce prix-là, c'est pas normal. Voilà. Donc, il n'est pas arrivé au bon moment là-dessus. Et peut-être qu'au moment où il veut plus, Liverpool n'est pas enclin à lui donner, parce qu'il y a d'autres investissements à faire. Et de pourquoi pas choisir ça là contre lui. Peut-être que Liverpool n'a pas les moyens de faire tout le monde sans mettre en péril leur modèle économique. Donc, c'est aussi pour ça que je le vois. Et ce qu'on peut leur reconnaître, c'est, voilà, c'est que dans la planification, ils ont quand même un coup d'avance. C'est-à-dire que c'est pas tu pars et qu'est-ce qu'on fait. Non, non, ils ont pensé à tout. Donc le modèle est plutôt intéressant. Maintenant, oui, en effet, sportivement, on n'est jamais certain de ce que ça va porter. On n'est jamais certain que ce soit mieux, surtout quand on voit ce qu'a fait Mané. Et ce dont souffre Mané, finalement, tu l'as dit au niveau du salaire, ses revendications, c'est que c'est pas un joueur, revendicatif. On le voit au Ballon d'Or.
Exactement.
Là, voilà, Mané, on n'en parle pas. Alors évidemment, Benzema a pris une avance folle et a priori il sera
mais
pour
en,
lui.
En Angleterre, on voit plus Salah comme un candidat au Ballon d'Or que Sadio Mané. Alors que Sadio Mané, il y a la victoire à la CAN, il y a ce pénalty décisif et il a pesé très très lourd aussi dans la saison de Liverpool.
Mais c'est des caractères, je pense. Un côté moins spectaculaire, un côté plus habitué à dire on est habitué à ce qu'il fasse, à ce qu'il fasse bien. Peut-être le moins coup d'éclat qui ressort. Et parfois, tout simplement, c'est un désavantage médiatique qui ne s'explique pas autrement que par ça.
Moi, je suis assez curieux de le voir au Bayern, quand même. Surtout le Bayern sans Robert Lewandowski. Ouais. Du côté du Bayern, on a l'impression que, pareil, c'est Nagelsmann qui prend le pouvoir. Et alors là, ça va être le football total. Il va y avoir des ailiers qui vont jouer avant-centre. Il va y avoir Mané qui va se balader autour. Donc, ça va être très intéressant à voir. Il faudra voir qui marque des buts, quand même, à un moment.
Ouais, mais bon. Je me fais pas trop de soucis pour le Bayern.
Moi non plus, mais j'ai quand même envie de voir. Et aussi, ce que peut devenir Sadio Mané ailleurs qu'à Liverpool. Mais donc, le transfert qui se dessine donc de Sadio Mané vers le Bayern Munich. Mon petit doigt me dit qu'on devrait en reparler dans Mercredi Mercato dès mercredi.
Il y a des chances. Et mercredi d'après, peut-être.
Non, non. Après, on aura fait le tour de Liverpool, à mon avis, quand même.
Bon, on va s'adresser maintenant à nos stagiaires qui sont venus en studio. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet, sur Sadio Mané, qui partira au Bayern?
Oui.
On a Josua.
C'est Josua qui vient. Il vient à côté de nous, voilà, pour accès au micro. Là, vas-y.
Moi, je trouve que c'est un très bon... Enfin, c'est une très belle chose pour... pour lui et pour l'équipe, parce qu'en même temps, ça va permettre de libérer une place qui était très bien prise. Et puis en même temps, ça va être un changement pour l'équipe, parce que sans doute, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe aujourd'hui qui part. Et donc bien sûr, il y aura des hauts et des bas, mais je pense qu'ils vont réussir à se relever un peu avec l'arrivée, par exemple, de Darwin Núñez. Et puis aussi, Luis Diaz qui apporte beaucoup. On a vu que c'était une pépite un peu.
Ouais.
Et puis il y aura toujours Mo Salah et puis Thiago Alcantara, Van Dijk derrière. Donc ça restera toujours une équipe formée.
Et si toi t'étais à Liverpool, tu l'aurais laissé partir?
Ça aurait été discutable quand même, parce que c'est quand même un
très bon joueur. Donc t'aurais signé le chèque en blanc, toi?
Non, quand même pas, mais il y aurait eu discussion. Mais bon, je pense que c'est son choix aussi après de partir. Il sent qu'il a fait beaucoup de choses à Liverpool. Il a apporté la Ligue des Champions cette année, mais il a apporté beaucoup. Cette année, ils ont gagné pas mal de choses quand même. Ils sont finis deuxième de Première Ligue. Et puis, c'est un départ. Et puis, maintenant, on va voir ce qu'il va apporter au Bayern de Munich.
Très bien. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Moi?
C'est l'école des fans.
Parce que Maxime, il prend sa retraite l'année prochaine. Ouais. Donc, il y a une place au FC Stream Team, si tu veux.
Non, je sais pas. Je travaille dans le sport.
Mais sport, le sport avec le ballon ou
On ne sait pas. Peut-être pratiquer une carrière sportive, parce que je fais du rugby en ce moment.
D'accord.
Ou peut-être travailler.
T'es de ligne arrière, non?
Troisième ligne.
Ah oui, c'est ce que je vais dire. Parce que...
Ou peut-être travailler dans... je suis pro sport.
Ah bah écoute,
allez,
t'envoies ton CV,
la candidature est posée. Maxime, on va enchaîner avec le dernier sujet de ce FC Stream Team pour parler d'un club historique en grand danger. Ouais. C'est les Girondins de Bordeaux. Et on accueille un invité spécial.
Cyril, on va conclure cette émission avec le sujet évidemment des Girondins de Bordeaux. Girondins de Bordeaux, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'imagine que vous avez tous suivi ça quand même cette semaine. Les Girondins de Bordeaux qui étaient déjà relégués en L2 et qui ont été relégués administrativement par la DNCG en National 1, donc le troisième échelon du football français. C'est une situation dramatique parce qu'il faut quand même le rappeler, les Girondins de Bordeaux sont un grand club français, 6 titres de champion de France, 4 coupes de France, une demi-finale de C1 en 85, une finale de C3 en 96, on ne parle pas de n'importe quel club. Donc pour parler de ça et un peu décrypter cette situation qui n'est pas forcément très compréhensible pour le commun des mortels ou le badaud, on va accueillir Nicolas Petrelli de Web Girondin. Salut Nicolas.
Salut Maxime.
Première Salut question.
Salut Cyril.
Comment ça va?
Ça pourrait aller mieux. Écoute, ça va mieux que le club, en tout cas. Mais ouais. Ça pourrait aller mieux. Il me tarde d'être dans 15 jours pour connaître l'issue de cet appel devant la commission de la FFF.
Alors, est-ce que tu peux nous résumer assez, je vais pas dire rapidement, mais assez simplement, ce qui arrive à Bordeaux, au Bordeaux de Gérard Lopez, dont on parlera après?
D'accord. Tu veux que je commence à Gérard Lopez?
Non, on va commencer par Bordeaux. C'est pour après. Ouais.
D'accord. Donc, qu'est-ce qui arrive à Bordeaux? Bordeaux, aujourd'hui, est un club en perdition qui est sur le point de perdre son statut professionnel dans 15 jours si aucune solution financière n'est trouvée. Parce que Bordeaux, aujourd'hui, a comme propriétaire la société Jogo Bonito qui appartient à Gérard Lopez. Et cette société n'a pas su apporter des garanties financières pour clôturer les comptes au 30 juin de cette année et pour assurer financièrement la survie du club pour la saison prochaine en Ligue 2. Voilà. Donc le souci, c'est qu'on a un actionnaire qui n'arrive pas à subvenir aux besoins économiques du club des Girondins de Bordeaux. La situation est celle-ci.
Alors, il fallait 40 millions pour repartir en Ligue 2. Je crois que Gérard Lopez proposait 10 millions sur ses fonds propres et 30 millions qui auraient dû venir des transferts. Et c'est là que ça se complique parce que, par exemple, ce qui aurait dû revenir à Bordeaux pour Aurélien Tchouaméni, par exemple, revient à King Street et Fortress, qui sont les créanciers de Lopez. Donc voilà, le club est dans une espèce d'impasse et maintenant, en gros, il faut un accord entre King Street, Fortress et Lopez et donc le club pour essayer de redonner un peu d'argent au club. Mais il faut savoir aussi que King Street et Fortress a aussi à perdre si le club dépose le bilan.
C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que le club a été racheté, en 2018, je pense qu'il faut revenir ici, c'est à ce moment-là, en 2018, que Fortress et King Street rentrent dans les Girondins de Bordeaux. King Street en actionnaire, Fortress en créancier. En 2021, Gérard Lopez rachète le club. King Street passe du statut d'actionnaire à créancier et rejoint Fortress. La dette du club aujourd'hui, c'est 65 millions d'euros. C'est énorme. 15 millions d'euros détenus par la métropole. Ce sont des échéances de loyers qui ont été reportées. Et 50 millions d'euros, dont 38 sont détenus par Fortress, 15 par King Street. Aujourd'hui, on ne parle plus de football à Bordeaux. C'est ça qui est désolant. C'est qu'on parle chiffres, on parle budget, on parle finances. Aujourd'hui, le football, c'est devenu accessoire. C'est ce que moi, je regrette aujourd'hui, c'est que ceux qui ont la destinée du club ne se soucient pas de ce que représentent aujourd'hui les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux, c'est un patrimoine. On a fêté les 140 ans du club cette saison, comme un symbole. Hein. Peut-être la saison où Bordeaux va finir en amateur. Aujourd'hui, ceux qui sont à la tête du club, et j'englobe Jogo Bonito, détenu par Gérard Lopez, et les créanciers qui ont un pouvoir avec une action de préférence, ça a été souligné par Sud-Ouest, de sortir Gérard Lopez. Ils peuvent le faire s'il y a un repreneur aujourd'hui. Mais ces gens-là, aujourd'hui, chacun, c'est une histoire d'argent aujourd'hui, c'est tout. Je veux dire, personne ne se soucie de ce que représente le club, de ce qu'est ce patrimoine régional, parce qu'aujourd'hui, Girondins de Bordeaux, dans 140 ans, ce sont des familles, un grand-père avec son petit-fils qui a vu, qui ont grandi avec ce club aux côtés d'eux toute leur vie. C'est ça. Et moi, c'est ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, on parle de chiffres, parce que est-ce que vous pensez vraiment qu'on en est aux 8 millions de Tchouaméni? C'est pas ça, la question elle est pas là, c'est que personne veut mettre l'argent mais tout le monde veut profiter. Donc aujourd'hui, les Girondins de Bordeaux, c'est un peu le laboratoire de tout ce qu'il faut pas faire dans le football business, avec la grande finance qui est dedans, qui n'en a rien à faire, excusez-moi de parler comme ça, de ce que nous ressentons, parce que moi je suis supporter, hein, au-delà de m'occuper de Web Girondins, moi je suis supporter, j'ai 48 ans, ça fait 20 ans que mon média existe, c'est la première fois que je vois ça. Je veux dire, eux, ils s'en foutent. Ils ne Je veux dire, ce ne sont que des actifs. Les joueurs ne sont que des actifs. Et c'est, on assiste en ce moment à un poker menteur pour savoir qui de Gérard Lopez ou de King Street ou de Fortress va te mettre l'argent. Ou finalement, personne. Et le dindon de la farce, ça sera le club qui descendra si personne ne fait rien, qui sera relégué en amateur, et les supporters qui n'auront que leurs yeux pour pleurer.
Voilà. Moi, j'ai une petite question pour toi, Nicolas. On sait qu'au moment de son retour, enfin de son arrivée, pardon, Gérard Lopez avait été plutôt soutenu par certains ultras bordelais, qui a eu une certaine complaisance envers la direction cette saison, malgré les choses qui allaient mal de la part de certains supporters. La situation, elle en est où aujourd'hui? Est-ce que ces supporters, ils ont fait amende honorable en disant bah non, en fait, en faisant venir Lopez, ça n'a fait qu'accentuer la chute des Girondins? Ou est-ce qu'on croit encore au bon sentiment de Gérard Lopez, qui a quand même un passif? Et on le rappellera ici, il y a quand même eu Lotus, il y a eu le LOSC où il s'est fait mettre dehors parce qu'il y avait des dettes trop importantes. Et puis, il y a eu Mouscron qui a fait faillite il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui se dit autour, tout simplement, de Gérard Lopez à Bordeaux?
Alors, chez les supporters, aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris qui était Gérard Lopez. On le voit aujourd'hui dans un article d'hier soir dans la presse régionale. Il est noté texto que Gérard Lopez ne compte pas subvenir aux besoins du club. Donc c'est vrai qu'ils ont été soutenus, l'équipe de Gérard Lopez a été soutenue, un soutien très très fort de la part d'un influenceur sur les réseaux sociaux et de la part des ultramarines. Ils les ont soutenus corps et âme jusqu'à aujourd'hui et je crois qu'ils le soutiennent encore. Hein. Je n'ai pas vu de banderole hostile comme on a pu avoir les années précédentes contre King Street, contre Frédéric Longuepé aujourd'hui. Pourtant aujourd'hui, la situation, elle est bien plus catastrophique que celle qui était en place l'année dernière. Aujourd'hui, l'année dernière, souvenez-vous, King Street, qui était alors actionnaire, qui n'était pas créancier comme cette année, avait déclaré fin avril qu'il ne voulait plus subvenir aux besoins du club. Et c'était le président Frédéric Longuepé qui avait mis le club sous la protection du tribunal de commerce, laissant quand même 3 mois pour trouver une solution. Aujourd'hui, on est dans l'urgence. Et aucun, ni l'actionnaire, ne souhaitent trouver de solution, ni les créanciers. Et donc, les supporters que moi, je côtoie tous les jours, ils pleurent, quoi. Ils ont bien compris. Ils ont bien compris à qui on avait affaire. Et que Bordeaux est vraiment le jouet d'intérêts économiques. Et que finalement, l'intérêt du club passe au second plan. En tout cas, moi, c'est mon avis. Et tous les faits le démontrent, que ce soit dans la gestion sportive ou dans la gestion financière, passe au second plan. Et ce qui intéresse ceux qui ont la main sur le club, c'est de gagner de l'argent avec ce club. Voilà. Et aujourd'hui, ben, on ne sait pas où on en est. En tout cas, pour répondre à ta question, oui, je crois qu'il est toujours soutenu par les ultramarines, okay, qui ont eu quelques revendications lors du dernier match à domicile pour demander un président délégué. D'ailleurs, petit aparté, Gérard Lopez avait fait un communiqué le soir même de la relégation, hein, qui était prêt, où il promettait des changements, notamment des changements importants dans la structure et l'organisation du club. Et finalement, on est un mois après et il n'y a toujours rien eu. Il promettait aussi de jouer la montée en Ligue 1 le soir de la descente. Aujourd'hui, force est de constater qu'en tant qu'actionnaire du club, il n'est pas capable de subvenir aux besoins du club. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, si lui ne peut pas subvenir aux besoins du club, qu'il laisse sa place à des gens qui peuvent, qu'ils souhaitent apporter leur secours au FCGB.
Ouais, et le problème que Bordeaux a, il ne faut pas le minimiser dans les autres clubs, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée des fonds d'investissement massifs, il faut rappeler que ce n'est pas des philanthropes, simplement. Ils ne viennent pas là pour faire plaisir, ce n'est pas des supporters. Il y a cette phrase d'Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole, qui résume assez bien la situation en disant que la décision de la DNCG résulte d'un péché originel lors de la vente du club par M6 et surtout de l'absence de gestion sérieuses par les fonds d'investissement anglo-saxons sans expérience dans le football professionnel européen et qui ont creusé sans compter le déficit du club. Et ils ne sont pas là tout simplement pour faire des courbettes. Lopez, comme par hasard, à Lille, il se fait dégager à un moment parce que la dette est trop forte. C'est aussi des fonds d'investissement, c'est un club qui n'était pas en bonne santé financière. Et ce qui est arrivé à Bordeaux, c'est encore plus spectaculaire parce que le problème avait démarré plus tôt avec d'autres. Mais c'est vraiment la finalité. Et quand je vois que Angers va vers des fonds d'investissement, que la Ligue 1 avec CVC se met dans les mains d'un fonds d'investissement, c'est pas juste des gens qui viennent amener de l'argent, c'est pas des philanthropes. Donc quand ça va pas, et ben ça va pas, ils préfèrent retirer leur bille parce que le foot, ils n'en ont rien à carrer, comme King Street et Fortress n'en avaient rien à carrer de Bordeaux. Donc la situation de Bordeaux aujourd'hui, elle est là. L'espoir, peut-être, c'est de dire que, vu que ce sont des financiers qui se disent que S'il y a dépôt de bilan, ils peuvent tout perdre. Alors essayer de trouver un arrangement avec Lopez. Mais ça, c'est, voilà, ça va dépendre des qualités de négociateur de Lopez. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être un bon négociateur, parce que pour arriver à avoir Lotus terminé comme ça, avoir Lille et puis Bordeaux, c'est qu'il a, il a quelque chose en plus qu'on n'arrive pas bien à avoir. Mais en tout cas, il sait faire. Donc l'espoir, maintenant, il est là, tout simplement, que les deux arrivent à s'entendre et sauver le club pour retrouver la Ligue 2 l'année prochaine.
Peut-être petite question en plus, Nicolas. Il y a, à Bordeaux, il y a aussi un serpent de mer depuis des années d'un repreneur local qui, pour le coup, serait amoureux du club. Et est-ce que cette solution-là, elle est encore envisagée aujourd'hui, ou bah, personne ne se bouscule au portillon pour sauver ce club-là, qui est dans cette situation-là en tout cas?
Alors, je m'appuierai sur les propos du maire de Bordeaux il y a quelques jours, Pierre Hermic, qui a dit qu'il l'avait entendu et qu'il le sait. C'est pas un hasard s'il le déclare, qu'il y a des repreneurs qui espèrent aujourd'hui venir sauver le club et venir le reprendre et le racheter. Et oui, mais moi, je peux vous le dire et vous le confirmer. Oui, il y a quelqu'un qui travaille. Oui, il y a un dossier qui est aujourd'hui en train de se monter dans l'urgence. Mais ce sont quand même des gens qui travaillent depuis plusieurs mois dessus pour venir essayer de reprendre le club et de le sauver. Il faut être un peu fou, hein, pour se lancer dans un projet comme ça, parce que c'est beaucoup d'argent. Mais pour ça, il faut qu'il y ait la volonté de l'actionnaire, Gérard Lopez, de céder la main, même si aujourd'hui il n'aurait plus la main de par cette action de préférence dont je parlais tout à l'heure. Et il faut que Fortress et King Street fassent jouer leur pouvoir de changer la destinée du club, parce qu'ils le peuvent en acceptant de discuter ou d'engager des conversations avec ce repreneur. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que quand on est supporter des Girondins de Bordeaux, on en est à espérer soit que Gérard Lopez trouve une solution avec King Street et Fortress, soit qu'il y a un repreneur qui arrive. Mais on a un délai vraiment très court, il y a 15 jours, pour apporter des garanties, soit, moi je pense que c'est ça la situation, soit d'une reprise du club, toutes les garanties, d'une reprise du club par un nouvel actionnaire, mais ça faut la volonté de ceux qui sont en place de le faire, soit un accord entre les parties en place pour que Bordeaux puisse repartir en Ligue 2. Mais si ces deux solutions-là ne sont pas trouvées, ben Bordeaux jouera en National 3 et là, ça sera une catastrophe économique pour la région.
Et puis, il faut rappeler qu'il y a évidemment la vente de joueurs qui est possible, mais Bordeaux aujourd'hui est dans une situation telle que, par exemple, un Sekou Mara, il ne va pas partir pour 10 millions. Les acheteurs savent en face que le club est exsangue, le club n'a pas de possibilité pour faire de levier par rapport à ça. Donc c'est une situation très compliquée, donc on saura en gros première quinzaine de juillet, puisque c'est l'appel de la DNCG, il me semble.
Première semaine. J'espère, puisque de toute façon au 15 juillet les compétitions doivent être bouclées. Donc première semaine, j'espère que ça sera plus rapidement possible.
Et on précisera, et c'est la une de Web Girondin ce vendredi matin, que le groupe reprend dans 7 jours, le groupe professionnel et les joueurs ont une reprise dans 7 jours et que bon courage à eux pour se reconcentrer sur le travail, sachant que c'est le flou le plus total.
Et puis il faut toujours rappeler aussi qu'il y a les footballeurs et il y a aussi, tu disais Nicolas, sur les fans, ça, et tous les salariés, tout ce microcosme, un club, ça fait vivre énormément de monde. Et bah, une relégation, c'est dramatique. Alors une double relégation et un dépôt de bilan, je vous laisse imaginer. Mais merci. Exactement. Nicolas.
Merci beaucoup,
merci
Nicolas.
Messieurs, merci à vous.
On peut retrouver Nicolas Petrelli sur Web Girondin. Je crois que Cyril, c'est la fin de cette émission maintenant.
Absolument. On a mérité notre week-end, Maxime.
On a mérité notre week-end parce que, comme on vous l'a rappelé, on était accompagné aujourd'hui de jeunes stagiaires de 3e qui sont venus nous écouter, nous regarder. On va maintenant faire le débrief avec eux. J'espère qu'ils ne sont pas trop sévères avec ce qu'on a dit, qu'on n'a pas trop dit de bêtises durant cette grosse demi-heure, 40 minutes qu'on a passé avec vous et avec eux. On s'est tout dit. Yes. Tu t'hydrates, hein, surtout. Tu fais bien attention parce qu'il fait très chaud et c'est pas bon la chaleur là.
Exactement. Non, hydratez-vous, faites attention à vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure.
Salut.
Salut.